Un collectif appelle à manifester pour les prisonniers palestiniens.
C'est un collectif qui s'appelle tout simplement Palestine 04, l'urgence de la paix et du droit, qui appelle à manifester samedi 17 février dès 9h30 devant le tribunal d'instance de Digne-les-Bains et qui dénonce effectivement la situation des prisonniers palestiniens. Je suis ravi d'accueillir plusieurs membres de ce collectif. Tout d'abord Monique Etienne, qui est vice-présidente de la FPS, l'association France-Palestine Solidarité 04. Bonjour Monique.
Bonjour.
Nous allons pouvoir parler avec vous de et votre association et puis de cette mobilisation pour les prisonniers palestiniens. J'accueille aussi Jacques Dumestre pour la France Insoumise, autrement dit un parti politique qui s'investit aussi dans cette dynamique. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et puis également Bertrand Perrin pour le Parti communiste français, qui nous donnera aussi l'avis de son parti sur cette problématique particulière. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Alors Monique Etienne, vous avez été longtemps présidente de l'AFPS, qui est maintenant présidée par Mireille Sève ici à Manosque. On peut rappeler brièvement quelle est la teneur de l'association France-Palestine Solidarité, et puis après on parlera de la situation des prisonniers palestiniens.
L'association France-Palestine Solidarité est une association nationale d'abord, qui a plus de 90 représentations dans les départements français. Nous l'avons créée ici en 2002, et au même moment d'ailleurs que le collectif Palestine 04, au moment d'ailleurs où il y avait l'opération Rempart en Palestine après l'éclatement de la deuxième intifada dans les années 2000, où vous vous rappelez que Yasser Arafat avait été encerclé dans la Moukata et où le droit était complètement écrasé par l'armée israélienne qui avait de nouveau envahi toute la Cisjordanie. Donc c'est à ce moment-là que nous avons créé l'AFPS. L'AFPS, donc, son objectif se démultiplie par trois axes. D'une part, la sensibilisation, l'information, on pourrait dire l'éducation populaire, à la situation qui est faite dans cette région. Le deuxième, c'est effectivement d'interpeller et de mobiliser les élus, parce qu'on pense qu'il faut faire bouger les choses de manière très explicite pour que les élus s'engagent. Et malheureusement, on voit aujourd'hui qu'avec les pressions qui sont faites sur nos élus, il y a de moins en moins d'engagement des élus et de courage des élus pour défendre tout simplement la justice et le droit. Et la question, le troisième axe, c'est on se situe résolument dans la défense du droit international. On peut dire que toute la question palestinienne, si le droit international était appliqué, et entre autres les résolutions de l'ONU qui sont régulièrement bafouées par Israël et par les États-Unis, soutenues souvent par les États-Unis, eh bien, on pourrait dire que il y aurait aujourd'hui deux États palestiniens. Ça fait 70 ans que ça, deux États, un État israélien, un État palestinien, et malheureusement, ça fait 70 ans que ça dure.
70 ans que le peuple palestinien vit sous une espèce de chape de plomb à cause de Tsahal, l'armée israélienne, à cause aussi de l'administration israélienne avec des confiscations de territoires. On parle régulièrement des colonies israéliennes en terre palestinienne, notamment en Cisjordanie, et puis, bien sûr, des opérations qui sont très médiatisé, comme par exemple en ce moment l'histoire de cette jeune fille Aed Tamimi qui est emprisonnée pour avoir giflé un soldat israélien. Tout le monde est au courant, tout le monde a vu cela, et elle sera jugée a priori à huis clos, mais enfin bref, on ne sait pas très bien ce que veut faire Israël avec ce cas très médiatique de cette jeune fille. Il y a comme ça des milliers, Monique, de prisonniers palestiniens dont on ne parle pas, par contre.
Ah ben c'est on peut dire que c'est un des drames de la Palestine, puisqu'en fait ce n'est pas récent. On peut dire que, par exemple, quand j'ai créé Femmes Solidaires en 1993 dans le département, nous menions à ce moment-là une campagne qui s'appelait « On veut qu'elle sorte ». Il y avait à l'époque 12 000 prisonniers palestiniens, et on peut dire que malgré les accords d'Oslo, jamais Israël n'a accepté de régler ce qui est en général, quand on veut la paix, un des premiers gestes, c'est la libération des prisonniers. Jamais les prisonniers ont été libérés en Palestine. Il y a toujours eu un volant de 6 à 8 000, des fois plus, prisonniers en Palestine. C'est la question des prisonniers, c'est vraiment un cas représentatif d'un système répressif très sophistiqué, dont l'objectif fondamental est de briser en fait l'état, la résistance d'un peuple. Donc ça s'attaque véritablement à tout ce qui est la résistance populaire non violente actuellement, qui est très importante. Et c'est le cas d'Aed Tamimi. Cette jeune fille d'abord est représentative de à double sens, c'est-à-dire qu'elle est mineure. Actuellement, il y a 434 enfants détenus en Palestine. De manière illégale, c'est contraire aux conventions de Genève. Donc on peut dire que là, ce sont des crimes de guerre aussi. Aed, elle est représentative aussi de la, ce qu'on appelle la résistance populaire non violente en Palestine, puisqu'elle est d'un village qui s'appelle Nabi Saleh, qui lutte depuis des années, tous les vendredis. La population se rassemble et manifeste pacifiquement et est victime de la répression armée des militaires israéliens. Et Aed, par exemple, à 10 ans, a vu son cousin qui a reçu une balle de l'armée à la tête et qui est mort depuis. On peut dire que ces enfants-là, qui ont connu la répression, qui ont connu la violence, qui voient leurs parents humiliés par les soldats, parce que quand ils arrivent la nuit, ils rentrent dans les maisons, il n'y a aucune sécurité, aucun sentiment de sécurité pour les enfants. Donc on peut dire qu'elle est symbolique à ce niveau-là, et de la volonté de réprimer la résistance populaire de ces villages. Pourquoi ce village se manifeste? Parce qu'il y a une colonie israélienne, qui est la colonie d'Alanit, Alanish, qui lui veulent en fait relier à Jérusalem et donc qui empêche ce village empêche la circulation. Et deuxième chose, la colonie a capté la source, et ça c'est un des gros problèmes actuellement de la Palestine, le problème de l'eau, a capté la seule source du village pour eux. Et donc entre autres la famille Tamimi est directement impactée par ce détournement de la source. Et donc ils manifestent pour récupérer leur source d'eau.
Et on imagine bien combien c'est important d'avoir de l'eau dans ces territoires.
Et alors, donc, conclusion, cet enfant, cette jeune fille maintenant, a giflé un soldat et effectivement a été filmée parce que les Palestiniens, dans leur résistance populaire, ont tout à fait conscience de la nécessité de faire connaître leur situation par rapport à des médias quand même qui sont dominés magistralement par l'État israélien actuellement. Et donc, on fait passer cette vidéo un peu partout, ce qui ridiculise effectivement l'armée israélienne et ce soldat, et elle menacerait soi-disant la sécurité israélienne alors qu'elle était main nue, tout le monde a pu le voir,
devant un soldat surarmé.
Donc c'est aberrant, et on voit bien quelle est la logique de tout cela. Et actuellement elle est en détention, ce qu'on appelle la détention administrative, qui est un autre scandale en Palestine, c'est-à-dire il y a actuellement 434 détenus administratifs. La détention administrative, c'est un système inique, qui est contraire au droit international, puisque on enferme les gens sans leur donner le motif de l'inculpation. On les enferme pour 6 mois, renouvelables indéfiniment, et l'avocat n'a absolument aucun droit d'accès aux sources secrètes pour lesquelles ces gens-là seraient emprisonnés. Donc, il y a des gens qui ont passé des années de prison. C'est le cas aussi de Salah Hamouri, que nous défendons et dont nous parlerons.
Ouais. On va y revenir tout à l'heure avec vous, Monique. Je vais me tourner vers Jacques Dumestre. Jacques, vous représentez la France Insoumise. Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans cette situation des prisonniers palestiniens actuellement?
Alors, ça a été très très bien expliqué par Monique Etienne, qui a quand même créé la FPS 04 ici. Moi, à ce moment-là, j'avais adhéré à la FPS 06, puisque je n'étais pas dans le département. Mais donc, on a suivi toutes ces évolutions, toute cette colonisation militaire systématique. Et quoi que disent les déclarations, c'est vraiment une volonté de finir le boulot, comme disent des responsables israéliens, le fameux boulot de 1947-48, où certains responsables israéliens disent qu'ils ont raté leur coup parce qu'ils n'ont pas réussi à éliminer tous les Palestiniens de leur de leur idée du grand Israël.
C'est voilà. Une situation dramatique que vous évoquez, parce qu'effectivement, on imagine en 1947 des gens qui sont rescapés de la Shoah et à qui on vient d'offrir un territoire qui s'appelle donc Israël et qui décident unilatéralement de chasser les Bédouins, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, les Palestiniens qui étaient sur ces terres pour pouvoir les occuper, alors qu'il aurait été tellement plus simple de, à ce moment-là, très précisément, il y a 70 ans, de créer ces deux États et d'essayer de vivre en harmonie, ce qui aurait pu se faire très facilement. Maintenant, c'est beaucoup plus délicat, puisqu'il y a des adversités, il y a la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens.
Alors, excusez-moi, M. Bav, je ne peux pas développer, parce que ce que vous avez dit est exact, mais très schématique.
Et oui, je suis obligé d'aller à l'essentiel.
Absolument. On a tous vu Exodus, qui est quand même un film assez particulier fait par les Américains, mais les rescapés des camps étaient refusés par la plupart des pays développés. Donc, ils ont réorienté ces gens qui voulaient aller aux États-Unis, qui voulaient être réfugiés en France et tout, ils les ont réorientés vers la Palestine du mandat britannique, qui, lui, avait affaire à un terrorisme extrêmement féroce. C'était celui des colons juifs déjà installés en place, qui avait plusieurs groupes, le groupe Stern, la Haganah, qui était le noyau de l'armée israélienne, et qui avait fait sauter à un moment tout l'état-major anglais. C'est l'épisode de l'hôtel du Ray David. Donc, je ne vais pas développer, parce que, de toute façon, ce sont des histoires qui remontent au démantèlement de l'État turc, où les puissances se sont précipitées sur ces régions, et vous avez tous les problèmes qui surgissent maintenant dans toute la région. Toujours est-il que pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a Monique Etienne en parlait, il y a cette situation de fait inacceptable que vous avez une procédure totalement arbitraire, les territoires occupés sont sous le contrôle de l'armée, et l'armée fait à tout pouvoir. C'est-à-dire qu'ils neutralisent des gens en les arrêtant. Monique Etienne a très bien expliqué le processus. Alors, il y a une signature d'un responsable dans le cas de Salah Hamouri qui a à nouveau été arrêté. C'est juste une signature de M. Lieberman qui a suffi pour l'emprisonner au moins pendant 6 mois et renouvelable de 6 mois en 6 mois ad vitam aeternam, puisque de toute façon, ça a été bien décrit par Monique, on n'a pas accès au dossier, on ne sait même pas pourquoi ils l'ont enfermé. Ce qu'on peut dire, elle parlait de gens qui ne sont jamais relâchés. Je trouve ça quand même assez significatif de la position de ce qu'on a coutume d'appeler la communauté internationale. Salah Hamouri était en prison quand le soldat Chaïd, de mémoire, qui était un soldat franco-israélien qui a été fait prisonnier sur la ligne de Gaza. Le gouvernement français est intervenu très puissamment. Il y a eu des campagnes qu'on peut trouver justifiées très puissantes et il y a eu un échange de prisonniers. Or, dans cet échange de prisonniers accord international, il y avait Salah Hamouri, qui est lui franco-palestinien. Résultat, c'est que quelques temps après, on remet Salah Hamouri en prison sans motif. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Monique Etienne, un Palestinien arrêté n'est jamais relâché.
Et la mobilisation du soldat Chaïd ne se répercute pas sur une mobilisation hypothétique actuelle en direction de Salah Hamouri, par exemple. On pourrait remarquer ça aussi, puisqu'ils sont tous les deux français d'une part, mais israélien d'un côté et palestinien de l'autre.
C'est terrible, mais les gens sont dans des camps, c'est vraiment le terme, des camps dans leur tête. Quand on voit comment a pu intervenir un député français, mais qui est député des Français de l'étranger au Proche-Orient, la façon dont il a parlé de l'affaire de Salah Hamouri et de la petite Aed Tamimi, il ne parlait que de terroristes. Or, Salah Hamouri n'a jamais commis d'acte de terrorisme, et la petite non plus. Ce sont des gens qui sont chez eux et qui se font écraser. Et tous les gens qui ont pu aller là-bas ont pu constater que c'est une armée d'occupation, comme nos anciens en ont connu chez nous. Et ils étaient quand même chez nous, ils arrivaient même à lutter violemment contre cette oppression extérieure. Voilà.
Merci Jacques de ce témoignage et puis de cet emportement sain qui vous anime. Bertrand Perrin, vous représentez le Parti communiste français. Quelles sont vos motivations par rapport à cette question et cette problématique particulière des prisonniers palestiniens ?
Je crois que c'est tout simplement l'histoire des communistes que de militer pour l'émancipation des peuples et le respect du droit international partout sur la planète, en Palestine, mais également avec le peuple sahraoui ou le peuple kurde, par exemple. À l'heure actuelle, la situation en Palestine est dramatique. Il faut imaginer ce que ça représente. 40% de la population masculine est passée entre les geôles israéliennes. Imaginez si 40% de la population en France avait séjourné en prison peu ou prou. On trouverait cette situation totalement arbitraire et injustifié. Voilà. Aujourd'hui, il existe un droit international, de nombreuses résolutions de l'ONU. Il faut que la communauté internationale et l'ensemble des élus et des acteurs associatifs se mobilisent pour le respect du droit qui existe sur cette planète et qui doit tous nous contraindre à aller dans le sens du bien commun. Voilà.
Votre parti politique est allié dans ce collectif Palestine 4, c'est quelque chose qui est logique pour vous ?
Oui, absolument. Nous, on souhaite apporter notre contribution autant que faire se peut au fonctionnement de ce collectif qui a été initié par l'association Palestine Solidarité, avec nos moyens, nos propositions, une histoire, une pratique militante. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, le Parti communiste s'est toujours mobilisé pour l'émancipation des peuples et particulièrement contre les guerres de colonisation, parce que je pense qu'il faut le dire clairement aujourd'hui, il faut que ça soit bien clair pour les gens qui nous écoutent, la guerre aujourd'hui qui existe entre la Palestine et l'Israël n'est pas une guerre de religion ou une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre de colonisation, c'est une guerre qui puise son origine dans des conflits géostratégiques, des ressources et une position politique du gouvernement israélien qui bien souvent est en conflit avec une partie de sa propre population sur beaucoup de questions.
Avec des victimes directes, évidemment, ce sont ces prisonniers palestiniens, ces fameux prisonniers. Monique Etienne, parlons de Salah Hamouri. Salah Hamouri, c'est une personne que vous connaissez, puisque oui, vous l'avez invité à venir dans les Alpes de Haute-Provence il y a quelques années.
Alors, on peut parler, dans le cas de Salah, d'un véritable acharnement. Mais il n'est pas un cas unique, puisqu'en fait, il est représentatif de ce qu'est la jeunesse en Palestine. Dès l'âge de 15 ans, il a été blessé dans des affrontements avec l'armée. Il a subi à 16 ans une première incarcération de 6 mois en détention administrative. Et il a été repris à 18 ans, en 2005 donc, et condamné de manière complètement arbitraire, sans preuve. D'abord, il a fait plus d'un an de détention administrative, et ensuite, il a été condamné à 7 ans. Parce qu'il avait plaidé coupable, ça c'est le système, un peu comme le système américain. Parce que s'il n'avait pas plaidé coupable, il était condamné à 14 ans, vous imaginez un jeune. Il a été libéré, comme le rappelait Jacques, au moment de l'échange avec le soldat Chalit. Ensuite, il s'est marié avec une Française, en 2014. Cette Française, qui normalement devrait avoir le droit de regroupement familial, n'a jamais eu le droit de ce regroupement. Et pire que ça, alors qu'elle était employée par le consulat de France, qu'elle avait un visa de travail en bonne et due forme, elle est rentrée parce qu'elle était enceinte voir sa famille, elle n'a jamais pu revenir voir Salah. Salah, pendant ce temps-là, a fait des études, après la prison, a fait des études d'avocat. On l'a empêché d'aller à l'université à Ramallah sous prétexte que c'était un danger pour Israël. Je ne vois pas très bien quel danger il y avait à aller en territoire occupé, quel danger ça pouvait représenter. Et au moment où il vient juste d'avoir son diplôme d'avocat, le 20 août de cette année 2017, le 23 août, l'armée débarque dans la nuit, le rafle, on ne sait pas pourquoi. Comme disait Jacques aussi tout à l'heure, c'est toujours la culpation, vous êtes des terroristes. Mais on se rappelle que Mandela était un terroriste, que Arafat était un terroriste, etc. Et que les terroristes d'hier sont les interlocuteurs d'aujourd'hui. Et je voulais dire que par rapport à Salah, ce qui est très important de souligner, c'est qu'il est aussi emblématique comme Aed l'est pour les villages de résistance. Il est symptomatique d'un grave problème aujourd'hui dont on a entendu parler récemment, qui est le problème de Jérusalem. Salah Hamouri, actuellement, son seul passeport, sa seule identité réelle, c'est français. Parce que Il n'a ni la nationalité israélienne, ni la nationalité palestinienne. Il a ce qu'on appelle la carte de résident de Jérusalem. Carte de résident, c'est un statut qui n'existe pas d'une certaine façon et qui est complètement aléatoire et dépendant du bon vouloir de l'occupant israélien. Donc, il est symptomatique aussi de la résistance des Palestiniens de Jérusalem qui ne veulent pas voir leur ville annexée, puisque vous savez que Jérusalem est coupée en deux. Jérusalem Est devrait être, par le droit international, la capitale de la Palestine et Jérusalem Ouest, la capitale d'Israël, mais tant que la question n'est pas réglée, le droit international interdit que les représentations, par exemple diplomatiques, d'Israël soient à Jérusalem. Bon, on sait ce qui se passe avec Trump, mais on voit aussi à quel point Salah est symptomatique et symbolique de la résistance actuelle des Jérusalémites. Et c'est très très important. Sur 6742 prisonniers, il y a plus de 500 prisonniers qui sont de Jérusalem. Donc c'est très important, comme symbolique, de casser la volonté des Jérusalémites de résister et de rester sur leur terre, parce qu'ils sont expulsés. Nous, on l'a vu en septembre, à quel point il y a des quartiers entiers qui sont expulsés à Jérusalem, sous prétexte d'ailleurs d'archéologie, qui sert de justificatif à une histoire qui remonte à 3000 ans. Donc on voit bien que on veut le casser. La deuxième chose que je voudrais dire, parce que c'est très important, c'est qu'il est français.
Il faut aller vite, s'il vous plaît,
Monique. Oui, alors justement, il est français. Et là, nous mettons vraiment le gouvernement et les élus devant leurs responsabilités. Parce que, comme on l'a fait pour Lou Bureau, le journaliste qui a été libéré en Turquie, parce qu'il y a une intervention ferme de la France, actuellement, il n'y a pas une intervention ferme du gouvernement français. Et nous exigeons cette libération. Nous exigeons que le gouvernement se mouille et nos élus nous soutiennent. Or, malheureusement, même y compris dans le département, nous n'avons, à part effectivement des municipalités comme Gérard Paul à Oumé, comme Denis Baye à Tohar, qui ont fait voter des motions pour la libération de Salah, il n'y a pas assez de mobilisation. Et nous rappelons que Salah, comme vous le disiez au début de la question, a été citoyen d'honneur de Sainte-Tulle et qu'aujourd'hui, eh bien, la municipalité de Sainte-Tulle aussi se tait.
Il y a des raisons politiques à tout cela. Je ne vais pas vous faire un dessin à propos de ça, mais par contre, vous allez donc tous être présents ce samedi 17 février à partir de 9h30. C'est à quel endroit, Monique, le rendez-vous?
Alors, c'est devant le tribunal d'instance de Digne-les-Bains, c'est cour Victor Hugo.
Boulevard
Victor Hugo, voilà.
À Digne. Voilà. Et vous allez certainement expliquer cette situation.
Alors, nous allons expliquer. Et ensuite, il y a une délégation qui est reçue à 11h à la préfecture par le cabinet du préfet.
Du préfet Guérin qui sera attentif, je l'espère, à ces conditions d'un concitoyen et d'un compatriote qui est emprisonné de manière très arbitraire, vous l'avez expliqué, en Israël.
Par exemple, c'est très important d'avoir les partis politiques avec nous et les syndicats et les associations, parce que nous voulons effectivement que cette cause de la Palestine et du droit soit vraiment le plus large possible et irrigue aussi notre société civile, comme on peut dire.
Merci à tous les trois d'avoir été mes invités pour parler de ce combat pour la dignité humaine et puis pour une égalité, évidemment, que l'on espère pour le peuple palestinien comme pour le peuple israélien d'ailleurs. Bonne journée, bonne manifestation samedi 17 février. À bientôt.
Merci.
Merci.